Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme. Nous sommes le jeudi 14 décembre, Noël approche, et j'imagine que dans les familles où se trouvent des enfants jeunes, l'excitation doit gagner la maisonnée, et que les enfants sont heureux, si c'est le cas, d'ouvrir les fenêtres de leur calendrier pour y découvrir un petit sujet en chocolat. Alors je rappelle d'ailleurs aux parents qui ne le sauraient pas, moi je l'ai découvert en fait cette année, et eh bien qu'il existe un service de la Poste, service qui est constitué de facteurs, de factrices, des bénévoles et des intérimaires qui répondent aux lettres que les enfants leur envoient. Alors ils ont jusqu'au 20 décembre pour faire parvenir leurs lettres au Père Noël. Et ils peuvent le faire soit en adressant leur courrier par la poste traditionnelle, en mettant simplement Père Noël, et en n'omettant pas d'inscrire leur adresse au dos s'ils espèrent une réponse. Mais comme le Père Noël est un personnage extrêmement moderne, eh bien il y a aussi une adresse internet à laquelle on peut lui écrire. Donc moi je ne savais pas du tout que ce service en fait existait depuis 1962, et en fait, il a vu le jour après que le ministre de l'époque, dont je ne connais pas du tout le nom, se soit rendu compte que deux factrices en France eh bien, répondaient aux lettres des enfants. Alors je trouve que c'est vraiment très mignon de penser que ça existe encore, alors que notre poste a terriblement changé de visage en perdant beaucoup de son humanité. Alors aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous offrir une sorte de conte de Noël. Alors dans ce conte, on pourrait dire que l'héroïne est un objet. Je disais en préambule de ce podcast que j'avais envie de parler d'objets d'affection, donc des objets qui racontent la mémoire de ceux qui les ont eus entre les mains. Et bien là, donc, cette héroïne, c'est une maison de poupée. En fait, ce conte de Noël a deux héroïnes, une maison de poupée et une petite fille. Donc je vais vous lire une chronique que j'ai écrite au tout début de l'année 2013 et en fait dans laquelle je raconte une histoire qui est vraiment un conte de Noël et qui concerne une petite fille qui aujourd'hui est une étudiante qui sourit souvent quand elle repense à ce qu'elle a vécu à cette occasion, à ce Noël-là, et une étudiante extrêmement généreuse qui se dit que vraiment à l'époque elle ne mesurait pas du tout ce qu'elle demandait au Père Noël. Alors je vais vous lire donc ce texte. La maman a trouvé la liste au Père Noël, écrite par sa cadette. Elle l'avait glissée entre les pages de ce grand cahier d'école, dans lequel elle consigne ses notes après les séances avec ses patients. L'écriture est très appliquée, comme si la petite fille de 7 ans avait voulu être sûre que le Père Noël arriverait à la lire, qu'il ne se tromperait pas. Elle a utilisé un stylo dont l'encre mauve brille. Cette petite fille, l'enfant du milieu dans sa fratrie, aime les maisons de poupées, les petits univers. Elle a le sens du détail et un goût déjà très prononcé pour la décoration. Cette petite fille a demandé une maison à 3 étages. Comme la maison n'est pas meublée, il faut ensuite tout rajouter, la salle de bain, la cuisine, le salon, la salle à manger, les chambres et les familles, lapins, écureuils et hérissons qui seront eh bien, les heureux habitants de ce lieu. Quand la maman découvre le contenu de la lettre, elle comprend que le Père Noël ne pourra jamais offrir à la petite fille tout ce qu'elle espère. La maman s'inquiète pour sa cadette, ce qu'elle ne ferait pas pour son aîné ou pour son benjamin. Leur aîné refait sa liste si souvent qu'elle ne se rappelle pas d'un jour sur l'autre ce dont elle avait envie la veille. Quant au benjamin, il n'aime pas les listes, il aime les surprises. La maman essaie d'orienter les désirs de la petite fille dans d'autres directions. Rien à faire, la petite fille ne rêve que de la maison, de ce qui permettra de la meubler et des personnages qui s'y épanouiront grâce à ses soins attentifs. quand la maman laisse entendre que le Père Noël ne pourra sans doute pas tout apporter et qu'il sait que la petite fille a déjà deux petites maisons dans sa chambre, une maison Barbie et la maison Pet Shop donnée par sa grande sœur, le petit frère est torque à l'adresse de sa sœur cadette. « Mais non, c'est pas vrai, ne t'inquiète pas, le Père Noël peut tout apporter. » La maman sait que la magie de Noël pour les enfants ne réside pas exactement dans la naissance attendue du Fils de Dieu, mais dans ses cadeaux espérés et qu'on découvre emballés au pied du sapin. La maman se laisse réfléchir pour ne pas écorner la magie de Noël. Du moins, ferait-elle en sorte que la petite fille trouve certaines de ses attentes. Mais le papa balaie ses arguments les uns après les autres. Surtout, il sait que la pièce fourre-tout, la caverne d'Ali Baba au fond du garage, abrite un grand carton dans lequel sont entreposées des dizaines de pochettes en plastique contenant de quoi construire une maison miniature en bois ainsi que tous les meubles et les accessoires. La maman ne l'était pas encore quand, à leur retour d'un tour du monde, d'une année, elle avait commencé à acheter les numéros édités par Atlas permettant de se lancer dans la réalisation d'une maison miniature rustique. Pendant plus d'une année, toutes les semaines, elle avait été chercher les fascicules mis de côté par Eric, le propriétaire de la maison de la presse. Dans la petite ville gardoise, ils étaient trois à s'être lancés dans l'aventure. Dans le lot, la femme du boulanger de la rue du Haut-Mazo. Elle avait un ravissant prénom, à consonance italienne, mais maintenant, la maman ne se le rappelle plus. Plutôt que de construire la maison au fur et à mesure, elle avait mis de côté tous les fascicules. Elle était sûre un jour de trouver le temps de la monter. Elle se disait que plus tard, quand les filles qu'elle n'avait pas encore seraient grandes, elle se ferait une joie de découvrir la maison et tout son univers. Sans doute, elle se rappelait l'un de ses plus beaux cadeaux de Noël, un cadeau reçu pour ses 9 ans. Avec sa famille, il venait de rentrer de la Martinique. Le retour en métropole était dur, la cour de récréation hostile, l'hiver dans la Sarthe rigoureux. Le parc était couvert de neige. L'un de leurs deux chiens, qui était né à Fort-de-France, découvrait cette matière étrange. Cela le rendait fou de bonheur. De son côté, le premier enfant de la famille, le cocker français, qui lui était né à Metz, s'étonnait que la neige suscite une telle excitation chez son congénère. Cet hiver-là, sous les grandes branches du sapin, elle avait découvert une incroyable maison de poupée. C'est leur grand-mère qui l'avait transportée depuis Paris. Ce n'était pas une jolie maison ancienne avec des objets en bois et de la vaisselle en porcelaine, mais une maison contemporaine au confort moderne. Rien ne manquait, pas même un vase rempli de fleurs en plastique. Un feu brillait dans l'âtre de la cheminée. Comme la maison était électrifiée, toutes les lumières s'allumaient. À la fin des années 70, le principe de précaution n'avait pas tout envahi. Les petites filles apprenaient à repasser avec des petits fers, des fers électriques. Elle avait passé des après-midi entières à jouer avec la maison. Quand sa sœur et elle avaient cessé de s'y intéresser, leur mère l'avait installée dans la chambre des futurs petits-enfants, dans la bonne et vieille maison de famille gardoise. Elle avait 1000 fois bien fait. Tous les cousins, garçons et filles, avaient eu le même plaisir à jouer avec la maison qui avait vieilli. Le système électrique ne marchait plus, une partie du toit s'était décollée, un bout de tapisserie avait été arraché, mais les meubles avaient été conservés, ainsi que la plupart des accessoires, tel un sapin avec boules et guirlandes. La famille, elle aussi, était toujours là, même si la tête de la mère se déboîtait et que l'un des enfants avait perdu un pied. Le plaisir des cousins consistait surtout à repenser l'aménagement des pièces et à redéfinir les espaces à vivre. Seul le Benjamin aimait renverser les meubles et projeter contre les murs les bandes de la famille. La maman n'avait jamais monté la maison. Quand ils avaient déménagé, tous les fascicules avaient été rangés dans un grand carton entreposé dans une pièce au fond du jardin. De temps en temps, la maman y pensait. Elle se disait que les enfants étaient encore trop jeunes pour apprécier une telle maison. Alors le temps avait passé. La maison en pièces détachées, les meubles et tous les accessoires avaient plongé dans un long, long sommeil, un sommeil de 7 années. Elle ne se doutait pas qu'ils en sortiraient le 25 décembre 2012. La veille de Noël, une grand-mère était arrivée dans l'après-midi, avec 2 de ses 5 petits-enfants. Les parents travaillant en avaient pensé qu'ils seraient heureux de quitter Paris plus tôt. La maman de 3 savait ce qui ferait le plus plaisir à la grand-mère 5 galons. être entouré de tous ses petits-enfants à la veillée de Noël. Il y en avait une à 18h30. Alors, la grand-mère et sa fille aînée étaient parties avec les 5 enfants. Le papa était resté à la maison avec le chien, le chat et le poisson rouge. Il serait rejoint plus tard par une tante et un oncle. Et avec un peu de chance, le Père Noël serait passé avant que les enfants rentrent de la messe. Pour être certain d'avoir de la place, on était arrivé très tôt. Contre toute attente, l'église n'était ni froide ni humide. Il y régnait même une chaleur surprenante. Parce qu'en fait, l'église était équipée d'un chauffage par le sol. Très vite, tous les paroissiens s'étaient mis à s'effeuiller pour ne pas tourner de l'œil, tels ces militaires impassibles exposés au soleil redoutable de certains 14 juillet. Installés au deuxième rang, tous les enfants avaient été sollicités. Un cousin déposerait au pied d'autel le petit Jésus sur son lit de paille, une cousine et leur aînée porteraient les offrandes, la cadette et le benjamin tiendraient les bougies. 2 heures plus loin, on avait regagné les voitures. Grâce à un SMS envoyé par un papa, la maman de 3 savait que sa sœur et son mari étaient arrivés et que le Père Noël avait eu le temps de passer. Avant de quitter la maison, les enfants lui avaient laissé au pied du sapin un set sur lequel était disposée une assiette couverte de rondelles de banane et de quartier de clémentine, ainsi qu'un verre d'eau. La maman retrouverait plus tard l'assiette cachée au fond du réfrigérateur. Comme dans toutes les familles, la découverte par les enfants des paquets s'était accompagnée de cris et d'automatopées. On avait commencé la distribution. Un peu inquiète, la maman guettait les réactions de sa cadette. Après avoir découvert une paire de rollers, une petite maison jumelle de celle que sa mamie lui avait offerte en Corse et que la grand-mère avait achetée, ignorant son existence, une valise contenant tout le nécessaire pour coudre des animaux en feutrine, la petite fille, les yeux emplis de larmes, le menton tremblant, était venue s'asseoir à côté de sa maman pour lui dire qu'elle ne comprenait pas, car le Père Noël ne lui avait absolument rien apporté de ce qu'elle avait espéré. Ce n'était pas du tout le moment de recourir à l'histoire de Mishka pour amener à la raison une petite fille déjà naturellement raisonnable. Assez vite, la petite fille avait dit « Je comprends. Le Père Noël, il savait que mes rollers commençaient à être un peu justes. Et puis, il s'est dit que je serais heureuse d'avoir la maison que j'avais dû laisser en Corse, car on n'avait pas assez de place pour la rapporter. Et puis aussi que je serais contente d'apprendre à coudre. » La grand-mère, qui était assise à côté de sa troisième petite fille, avait les larmes aux yeux. Elle était bouleversée de voir à quelle vitesse cet enfant réussissait à transformer sa déception réelle en joie raisonnée. Le papa était venu voir sa petite fille. Il lui avait alors parlé de cette magnifique maison que la maman avait achetée et qu'il fallait construire. Il avait promis à la petite fille qu'ils iraient la chercher ensemble au fond du jardin. La petite fille s'était blottie contre son papa. Un joli sourire illuminait son visage. Le lendemain, tandis qu'on s'activait autour de la préparation du déjeuner de Noël, le papa, aidé de ses enfants, avait été exhumé du carton tous les fascicules. Ils étaient couverts de poussière, des mulots étaient venus y nicher. Il avait fallu commencer par ouvrir la plupart des pochettes pour en nettoyer le contenu et le ranger dans des sacs de congélation. La petite fille avait déjà mis de côté certains meubles, des objets en porcelaine, dont une superbe baignoire à pied, des lampes, des tapis, une brouette et tous les outils de jardinage. En attendant que la maison soit construite, la petite fille avait libéré des espaces dans sa bibliothèque et y avait installé les meubles et les accessoires. Elle était ravie. Son petit frère l'avait aidée à retrouver la famille Lapin, disséminée aux 4 coins de sa chambre. À présent, en retrait, il observait sa sœur déplacer les objets et dresser le couvert sur la table de la salle à manger. Il n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit. Quand il lui avait demandé si, plus tard, ses enfants à lui pourraient y jouer, elle avait répondu qu'elle donnerait la maison à ses enfants à elle. À leur retour d'un séjour dans les Alpes, un papa, flanqué de son trio, avait été chercher les sacs contenant toutes les pièces détachées de la maison. Il avait étendu une large feuille de papier craft sur un tapis et une vraie chasse au trésor avait suivi. C'est que cela n'était pas facile de retrouver le premier fascicule, puis le deuxième et le troisième. La colle fournie avec les numéros était inutilisable depuis très longtemps. Heureusement, on avait ce qu'il fallait en réserve. L'humidité avait fait jouer le bois. Le papa avait renoncé à la colle et chargé sa cadette de remonter du garage la visseuse. Au bout de 2 heures, quand le papa se relevait, les genoux passablement endoloris, L'édification de la maison en était encore à ses balbutiements. La petite fille était un peu déçue. Elle s'était imaginée que la maison serait achevée le jour même. La réalisation tombait à point nommé. Elle serait un moyen agréable d'occuper les enfants, les dimanches après-midi, d'un hiver résolument pluvieux. Ce jour-là, dimanche de l'Épiphanie, la petite fille avait eu la fève. Elle avait ceint sa couronne dorée et choisi son petit frère pour roi. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient arrivés à bon port. Elle ne pensait plus à sa liste, au Père Noël. Alors voilà cette chronique que j'ai eu beaucoup d'émotions en la relisant. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'enfants, finalement, eh bien, de ne pas trouver sous les sapins ce qu'ils avaient demandé au Père Noël. Alors bien sûr, la petite fille dont il est question, et qui est donc une étudiante aujourd'hui, et qui est la première à passer du temps avec les sans-abri, à rentrer dans un magasin pour aller leur acheter un bonnet chaud, enfin quelque chose qui va les aider eh bien, à supporter des températures maintenant quand même fraîches et surtout cette humidité. Eh bien, elle était, quand elle repense à ça, elle est tout le fait avec. Elle s'étonne de son attitude, elle se dit, mais quand même, j'étais beaucoup gâtée. Mais oui, certes. Mais quand on s'adresse au Père Noël, on s'imagine que tous nos vœux seront exaucés. D'ailleurs, récemment, j'ai reçu au cabinet un petit garçon de 7 ans, lui aussi, qui m'a dit, quand il était tout petit, leurs parents leur avaient dit à sa petite sœur et à lui que le Père Noël n'existait pas. Et je sentais dans sa voix, quand il m'a raconté ça, que bien sûr, il y avait de la déception, parce que tout autour de lui, beaucoup d'enfants devaient encore croire au Père Noël. Et je me disais que sans doute, si les parents avaient fait ça, c'est parce qu'ils croyaient bien faire et pensaient que c'était pas forcément une bonne chose d'entretenir ce genre de croyance. D'ailleurs, pas mal de parents refusent d'adhérer au Père Noël et très vite expliquent à leurs enfants comment les choses se passent réellement. Mais je sentais quand même chez ce petit garçon une tristesse. Parce que quand même, le Père Noël, c'est assez magique. Et quand nos enfants ont su que le Père Noël n'existait plus, ou plutôt quand ils m'ont interrogé sur le fait de savoir s'il existait ou pas, je leur ai dit que ce qui comptait, c'est ce qu'eux voulaient croire. Voilà. Et il y a toujours dans les classes le petit enfant qui a été le premier à savoir que c'était pas vrai et qui s'empresse de le dire aux autres. Et je pense que c'est parce que c'est difficile pour les enfants quand ils comprennent que que le Père Noël n'existe pas. Voilà, et j'imagine qu'en ce moment, dans les classes, alors que les vacances approchent, il y a encore plein d'enfants pour apprendre avec leur maîtresse le petit Papa Noël que chantait Tino Rossi, que nous avons tous appris, je pense, quand nous étions en maternelle. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée. Je ne suis pas forcément assurée de pouvoir réaliser un épisode la semaine prochaine. Alors, dans le doute, je voudrais vous remercier pour votre écoute. Si certains me sont fidèles, eh bien, les remercier de l'être. Et vous souhaiter à toutes et à tous de passer un très très joyeux Noël, sachant que le plus important n'est ni au pied du sapin, ni dans l'assiette, mais dans le bonheur qu'on a d'être réunis pour partager ce moment tous ensemble. Et je vous dis à très bientôt.